Merci pour la louange, hein. Parce que j'ai vécu un temps, j'ai encore un peu les yeux rouges, je pense. Heureusement, vous êtes loin, vous ne le voyez pas. Mais j'ai vécu un temps vraiment fort. Alors au départ, c'était l'amour, c'était beau, c'était déjà super profond. Et je pense que c'est ce que Dieu veut nous donner en ce moment. Pendant que j'ai préparé ce message, je faisais aussi du soaking dans sa présence. Ça se déversait sur moi. Et je prie que vous puissiez aussi le recevoir comme ça. C'est vraiment... Voilà, le Seigneur, il veut nous aimer, il veut nous transmettre son amour. Luc a parlé de la bonté de Dieu la semaine dernière et ça continue. Aujourd'hui, c'est l'amour. C'est pas mal, hein? Et donc, pendant ce temps de prière, de louange, quand le chant a commencé, enfin, je me rends. C'était enfin l'Église, je le priais pour l'Église, Josué qui se rend, enfin. Voilà, on a prié à un moment donné, c'était à la rentrée, c'était même pendant l'été, on a prié, Seigneur, il ne nous reste plus que toi, mais c'est pas grave, c'est l'essentiel. Et en fait, je pense que Jésus, il nous amène parfois à ces temps où il n'y a plus que lui qui compte. Il nous débarrasse de tout, et c'est bizarre. On avait cette image du cèpe avec les deux petites branches, hein, qui... Voilà, les sarments qui ont plus beaucoup d'éclat, qui ont plus de feuilles, qui ont plus rien, qui ont l'air morts. Puis en fait, ben, c'est comme si en ce moment, Dieu il nous amenait dans cette position-là de mort, on a l'air ridicule, on a l'air abandonné. Puis en fait, non, pas du tout. Le Seigneur, il travaille à travers ça. Il fait des choses en profondeur, en fait. Et là, les larmes qui sont venues, je veux dire, je n'ai pas contrôlé. Je me dis, oh là là, je vais ruiner mon maquillage, tant pis. Mais bon, je me suis laissée faire. Et puis, c'était comme une intercession de, ben Seigneur, on se rend. L'Église, Josué, se rend. On se rend à ta bonté. Et c'est en même temps tellement... c'est un peu curieux, c'est un peu insécure. Et en même temps, une fois qu'on l'a fait vraiment... On est en plein dans sa bonté, on est en plein dans sa sécurité, on est en plein dans ses bras. Et en fait, c'est le meilleur endroit où on peut être. Donc, je vous le donne. Prenez-le. Je l'ai prié pour nous, pour toute l'Église Josué et pour moi en particulier aussi. Hein. Dieu, il fait les choses individuellement et collectivement. Donc, pour aujourd'hui, j'avais ce message sur Abraham, Isaac et Jacob. Alors, on a déjà reçu beaucoup de choses à travers notamment des enseignements de Luc, mais il y a eu beaucoup de choses aussi, même au niveau de RNC avec Xavier Dufour qui nous a parlé du travail entre les générations. Il y a beaucoup de belles pépites qu'on a déjà reçues et je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur Abraham parce qu'on a déjà beaucoup compris un certain nombre de choses, mais bon, on peut quand même encore continuer à creuser, parce que c'est tellement énorme, hein, l'appel d'Abraham, je le fais avec les sixièmes, et puis je suis toujours frustrée, parce qu'il y a plein de choses à dire sur Abraham, mais c'est au programme de français de sixième, les textes fondateurs, mon fils va bientôt découvrir, et Abraham, c'est, voilà, on sait, hein, il représente l'obéissance, le fait de sortir de l'idolâtrie, de sortir de ce qui était sa patrie, et puis d'aller vers l'inconnu, simplement avec la parole de Dieu, qui lui a fait des promesses de fécondité, promesses de conquérir une terre pour ses descendants, et puis de la multiplication. Hein. Enfin, vous connaissez l'appel d'Abraham, vous connaissez les promesses que Dieu lui a données. Et donc il a obéi, il a eu des craintes, évidemment il était humain aussi, il est passé par plusieurs épreuves, et notamment donc le sacrifice qui lui était demandé de sacrifier Isaac, et jusqu'à ce qu'il comprenne en fait qui était l'Éternel comme un père. Donc il y a tout ce cheminement d'Abraham qui est déjà ultra riche, donc comme dit, je ne vais pas tout reprendre parce qu'on pourrait y passer des heures. Mais évidemment, je vais prendre à partir d'Isaac, parce qu'on a déjà eu donc ces enseignements sur Dieu qui construit sur plusieurs générations, Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui se révèle comme tel aussi à son peuple. Et donc, on voit que le Seigneur insiste sur le fait qu'il est un Dieu des générations, c'est un Dieu de famille, un Dieu qui transmet les bénédictions d'une génération à l'autre. Et le peuple juif doit en fait répéter plusieurs fois des prières de bénédiction sur les enfants. Et c'est un commandement, en fait, hein, de Dieu, de passer cette bénédiction, de la parler, de la proclamer sur les générations qui viennent. Et ça, c'est parce que Dieu est un Dieu de génération. Et donc, Abraham n'a pas forcément tout de suite compris pourquoi Dieu lui demandait de sacrifier Isaac. Et on sait, il a proclamé une parole de foi en disant à son fils, quand il lui posait la question, « Bon, il est où finalement l'animal pour le sacrifice ?» Abraham lui a répondu, « Dieu se pourvoira lui-même. » Et Isaac, il a quand même vu le couteau arriver de près. Hein. Donc, ça m'a toujours beaucoup parlé, en fait, ce moment du sacrifice qui n'a heureusement pas eu lieu. Parce que bien sûr, c'est aussi pour arrêter toutes les malédictions qui étaient générationnelles. Il faut savoir que le contexte de l'époque, c'était on sacrifiait vraiment les premiers-nés. Donc il y avait vraiment des choses qui se passaient comme ça. On sacrifiait à Moloch, on sacrifiait des enfants pour la bénédiction, pour que ça retombe sur la famille. Et là, c'était aussi une manière d'arrêter ça, de dire stop maintenant à toutes ces choses. Et donc... C'est pas un agneau qui a été sacrifié, c'est un bouc. Et ça m'a aussi beaucoup parlé. C'est en fait le père, le bouc. C'est pas l'agneau qui est donné. Là, c'est comme une révélation pour Abraham que Dieu se donne lui-même en sacrifice. Il se pourvoit du sacrifice et puis c'est un bouc et c'est pas un agneau. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui m'ont beaucoup parlé dans cet épisode. Et par rapport à Isaac. Ce qui m'a aussi frappé dans la suite, puisque après on nous parle, donc je vous relis pas tout Genèse, hein, Genèse 25, Genèse 26, donc Abraham, il donne tout, Genèse 25, verset 5, il donne tout à Isaac. Donc 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac, et dans certaines versions, c'est aussi, il lui donna tout son héritage, il lui donna tout, il lui a tout transmis. Et ça m'a beaucoup marqué en fait ce verset pendant que je préparais le message, parce que l'héritage, le principe de l'héritage, c'est quelque chose qui me parle beaucoup depuis longtemps, parce que c'est quelque chose que j'ai aussi reçu d'un point de vue naturel. On est très famille chez nous. Récemment, il y a mon grand-père qui a fait un malaise cardiaque, et puis il y a toute la tribu qui s'est rassemblée autour de lui. Et ça m'a fait penser à cet Abraham, il est un peu le patriarche, hein, le grand-père, avec son petit caractère, son petit style bien à lui. Et puis il a créé une famille énorme, parce qu'il a eu 4 enfants lui-même, et puis chacun des 4 enfants a eu au moins 3 enfants. Donc ça fait une belle famille. Et là, c'est vrai, il y a eu comme une sorte de chaîne foudroyée, ça nous a fait vraiment bizarre, parce que c'est une force de la nature et qu'il lui arrive... pas grand-chose en général, et puis là, on s'est tous rassemblés autour de lui, et ça, c'était incarné, ce message était encore un peu plus incarné, de me dire, en fait, oui, il y a l'importance de cette famille, et du coup, forcément, dans la tête, on se dit, si jamais il ne reste pas, et si jamais Dieu l'enlève, si c'est le moment pour lui, est-ce qu'on lui a dit au revoir, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, donc ça turbinait pas mal, et donc j'ai encore prié le Seigneur par rapport à ça, au principe du patriarche, de la tribu. Le principe des patriarches, c'est qu'ils créent une tribu. Et la tribu, elle lui doit tout, en fait, hein, d'un point de vue naturel. Et j'ai vu que dans ma lignée aussi, il y avait bien sûr des bonnes choses, mais il y avait aussi des choses dont j'ai dû me débarrasser, j'ai dû nettoyer, j'ai dû prier. Je vous recommande à tous de travailler vos générations antérieures, puisqu'on reçoit un ADN naturel, mais aussi un ADN spirituel, et il y a besoin de nettoyer pour qu'il ne reste que le bon. Et là, j'ai encore vu que d'un point de vue naturel, j'ai reçu beaucoup de bonnes choses, et d'un point de vue spirituel aussi, parce qu'on est né à Josué avec Fabrice, on a... reçu énormément de Josué, on a grandi à Josué, alors bien sûr il y avait aussi des petits inputs de l'extérieur, On a beaucoup appris dans notre caractère à l'établissement Daniel, avec nos propres enfants, c'est la meilleure préparation au ministère. Donc, mais d'un point de vue spirituel, c'est vrai que nos fondements, nos racines, elles sont ici. Et on est très, très reconnaissants, mon mari et moi, pour ça. Et vous nous avez vus grandir et on est aussi reconnaissants d'avoir toutes ces personnes qui nous aiment alors qu'on n'a rien fait. Et donc Isaac, c'est le fils de la promesse. Abraham, il a voulu aider Dieu, mais ça a donné Ismaël. Alors c'est vrai que là aussi, ça m'a fait réfléchir sur est-ce qu'il y a encore des Ismaël dans nos vies? Est-ce qu'on veut aider Dieu? Est-ce qu'on veut faire par nos propres forces, par la chair? Donc ça m'a permis aussi de me dire, mon Seigneur, si tu as des choses à nettoyer dans ça, vas-y. Pour qu'il ne reste que en fait l'accomplissement des promesses, mais dans le temps de Dieu. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est qui nous défie, parce que nous, on aimerait toujours aider Dieu. On voudrait aller plus vite, on voudrait que ça avance, on voudrait que ce soit visible aussi à l'extérieur. Et c'est vrai que pour notre église, le fait d'être SDF dans une salle, même si elle est magnifique, qu'on loue, qui n'est pas à nous, avec un bâtiment qui nous attend gentiment où on peut rien faire, c'est un peu une mort. Et on se pose des questions. Et en fait, on a vu Isaac, il est arrivé au temps de Dieu, alors qu'Abraham, il avait 100 ans quand même. Donc nous, avec nos petites dizaines d'années de marche dans le désert, on est large en fait. Pour vous encourager. Et ce qui m'a beaucoup encouragée aussi et interrogée dans l'histoire d'Isaac, c'est qu'il creuse des puits. Alors ça, je l'avais déjà entendu, mais il y a des puits spéciaux. Au départ, dans Genèse 25:11, il habite pas très loin de l'Akairoï, qui est le puits où Agar s'était réfugiée, un endroit où Agar s'était réfugiée alors qu'elle avait été bannie par Sarah. Et elle a appelé cet endroit le lieu où Dieu me voit, le Dieu qui me voit. Donc on voit que Isaac, il est proche d'un lieu qui au départ n'était pas forcément très positif. Mais c'est le nom du puits est beau, ça veut dire Dieu qui me voit, Dieu qui voit. Ensuite, le deuxième, donc là on est dans Genèse 25, 18, oui, il commence à creuser des puits, Genèse 26, 18, pardon. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Donc il va, en fait, les puits que que Abraham avait creusés, ils avaient été remplis par les Philistins, bouchés. Et Isaac, il a comme mission, en quelque sorte, d'aller creuser de nouveau les puits de son père, qui avait été comblé par les Philistins. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Donc on voit qu'Isaac, il est fidèle à ce que son père avait fait, à l'œuvre de son père. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar, donc là on est vraiment dans le sud, et le puits il est vital parce que dans le sud il fait vraiment très très chaud. On est allé avec mon mari en Israël, on était juste pas très loin de Jérusalem, on était déjà en train de souffrir de la chaleur alors qu'on était en octobre. Là, vous imaginez vivre dans un lieu désertique, les puits c'est la vie en fait, c'est la survie même. Et donc le premier puits qu'il trouve s'appelle Ézek. Et donc ce puits signifie la dispute, puisqu'il se dispute avec d'autres serviteurs. Je peux reprendre le passage. Donc, les serviteurs d'Isaac, verset 19, creusèrent encore dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Donc il y a une dispute de propriété. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Donc vous voyez que son ministère ne commence pas de manière super paisible. Il creuse des puits, il veut restaurer l'héritage de son père et puis il y a des disputes et il y a des querelles. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Enfin, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Donc Rehoboth, ça veut dire espace dégagé. Et donc, on voit qu'il est enfin mis au large. Et de là, alors verset 23, il remonta de là à Beersheba. Et à Beersheba, donc il va rester un certain temps. Et Beersheba, c'est aussi un puits. C'est un lieu où il y a un puits. Et on le voit dans Genèse 21-30, où Abraham, justement, il fait serment. C'est le puits qu'on appelle le puits des sept brebis et qui fait aussi référence à un serment qu'il a donné à Abimélec. Et donc, on a ce puits qui revient comme un rappel, en fait, de l'héritage d'Isaac. Le dernier puits. Et donc ces puits, évidemment, ça peut nous parler pour nos propres vies. Ben voilà, on a un héritage, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le laisse simplement comblé par les Philistins et on ne l'utilise plus, l'eau vive ne peut plus alimenter les lieux, les personnes qui vivent autour de ce puits? Ou est-ce qu'on va recreuser quelque chose qui avait déjà été creusé? Et c'est vrai que ce principe-là me parle parce que c'est un combat, en fait. On a l'impression que ben, ça peut être acquis dans une génération. La génération d'après doit ben, finalement encore combattre pour ces lieux, pour ces puits. Et pour nous, dans notre, d'un point de vue spirituel, évidemment, ce puits, ces puits, ils peuvent être très divers. Et selon l'appel que vous avez, ben, vous avez un puits ou plusieurs puits à aller creuser et peut-être à les déboucher d'abord. Et donc, en fait, Isaac, on voit hein, donc, avec Ismaël, on n'a pas trop de détails sur les autres fils et filles d'Abraham. C'est celui qui va ensuite, donc, évidemment, donner naissance à Jacob. Et on voit dans la lignée qu'il est comme une courroie de transmission, parce que s'il n'y avait pas eu Isaac, ben, il n'y aurait pas eu la multiplication avec Jacob. Et la multiplication, elle arrive vraiment avec Jacob. C'est là que les 12 tribus vont naître de Jacob, et donc les 12 patriarches, vous connaissez l'histoire. Alors, je ne vais pas m'étendre non plus sur Jacob, mais pareil, il ne commence pas avec une super réputation. Hein, on appelle le supplanteur, et il a besoin d'être purifié de ses manières de fonctionner, ses manières de voir les choses. Et ce qui m'a étonnée dans Jacob, c'est qu'en Genèse 28-20, on nous dit qu'il a... Enfin, je vois qu'en fait, il a mis du temps à s'engager. Ça m'a parlé aussi. Donc, Genèse 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, donc le voyage où il a dû aller chercher sa femme, que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Ça veut dire que jusqu'à présent, il ne s'était pas vraiment engagé pour Dieu. « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, donc ce qui est traduit par Bethel, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc il y a vraiment un engagement qui se fait à partir du moment où il part, où il sort de la maison de ses parents, où il va dans des endroits qui sont dangereux, hein. Il va vers l'Orient. Donc là, il se repositionne dans l'héritage qu'il avait reçu de son père et de son grand-père en disant « Bon, si, là, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides. Si tu m'aides, je te donne ma vie et je te consacrerai ma dîme, etc. etc. » Donc, voilà, pour Jacob... Il a la révélation ensuite hein, avec l'échelle de Jacob, etc., etc. Donc ça aussi, on connaît. Hein. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ces trois étapes, Abraham, Isaac et Jacob, c'est qu'à chaque fois, les femmes étaient stériles. Et Dieu a dû intervenir à chaque fois pour que la descendance arrive, en fait, qu'elle existe, tout simplement, que le peuple puisse exister. Et du coup, j'en viens à ma deuxième idée, ma deuxième partie, on va dire. On peut le voir aussi d'un point de vue spirituel. Et d'une certaine manière, il y a une incarnation aussi de la bénédiction, de l'amour de Dieu dans la création même du peuple. Puisque je me suis aussi beaucoup posé cette question de savoir mais pourquoi le peuple élu, pourquoi on l'appelle comme ça, pourquoi les Juifs, pendant toute ma jeunesse, je me posais cette question-là. Et en fait, quand j'ai compris que à partir d'Abraham, et de la stérilité de Sarah, Dieu avait produit en fait de lui-même, il a mis de lui-même dans ce peuple, ben forcément c'était un peuple spécial. On le voit dans le H de Abraham, hein, Abraham qui devient Abraham, Sarah qui devient Sarah, et il met dans les personnes, même dans Abraham et Sarah, en tant qu'humains, sont son roi, on dit le H, ça, c'est son souffle en fait, hein, et il fait advenir quelque chose qui n'existait pas et qui n'était pas possible. Il y a quelque chose de l'impossible qui arrive sur Terre. Et ça a dû être répété encore après avec Isaac et Rebecca, parce que Rebecca était elle aussi stérile. Et Isaac a supplié Dieu pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il arrive en fait à être père. 20 ans, c'est énorme. D'un point de vue humain, c'est très très long. Et il a continué, il a supplié, nous dit la parole, il a supplié Dieu pour un fils. Et pareil pour Jacob. Alors, Léa n'était pas stérile, elle a donné beaucoup d'enfants à Jacob, mais Rachel, qui était la préférée de Jacob, était, encore une fois, stérile. Et donc, encore une fois, Dieu est intervenu pour que Rachel ait des enfants. Et ça montre, encore une fois, que cette dimension de l'héritage, de la transmission, de la création du peuple d'Israël, c'est un combat. Et c'est un combat qui a été donc remporté évidemment par Dieu. Pourquoi préparer, en fait, tout simplement préparer la venue du Messie. Donc, à partir du moment où j'ai compris que le peuple de Dieu était constitué par Dieu, on l'appelle le peuple de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créé de toutes pièces. Il a pris un homme, il a pris une femme et il a créé, en fait, ce peuple particulier. Dans quel but ? Ben, d'accueillir le Messie, dans quel but ? De sauver le monde. À partir du moment où j'ai compris ça, je dis oui, bon, c'est bon, on peut l'appeler le peuple élu. J'ai plus toutes mes racines d'antisémitisme, elles sont parties, elles ont fondu comme neige au soleil. Et cette compréhension, elle a été assez puissante pour moi. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Église est greffée sur ces racines-là. Donc, on sait, hein, dans Romains 11, 17... Paul enseigne donc sur l'olivier franc. Et ça aussi, c'était une belle révélation. Alors, Romains 11, 17. C'est pas ça. Voilà. Donc, on a tout, on est co-héritier avec le peuple de Dieu grâce à la greffe. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, donc c'est nous, hein, tu as été hanté, c'est-à-dire greffé à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne donc pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. On est toujours dans le même thème, hein ? Autrement, tu seras aussi retranché. Eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, et là, il y a vraiment l'espérance pour le peuple de Dieu, hein, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. C'est d'autant plus facile pour Dieu de les regreffer. Mais je pense que je vais passer à la troisième partie. pour nous, les promesses de Dieu, elles sont quand même assez extraordinaires. Et à partir de ce qui a été partagé là, en fait, la réflexion que je me faisais, c'est et quand on sait ça, quand on se rappelle de ça, de toutes ces promesses qui ont été données à Abraham, Isaac et Jacob, chacun avec leur spécificité, avec leur appel propre, et que l'Église est greffée sur l'olivier franc, et que du coup, ben, la racine d'Abraham, elle nous concerne aussi. Hein, si on est greffé sur l'olivier franc, c'est qu'on a la même racine. Donc bien sûr, il y a plein de choses par rapport à notre compréhension, notre mission pour les Juifs et pour voilà, le retour des Juifs dans la maison du Père, il y a tout ça. Mais il y a aussi le fait que nous ne pouvons plus être orphelins. Nous ne pouvons plus nous considérer comme des gens du dehors. On a été, là, c'est tout l'enseignement de Paul hein, sur ce sujet. On ne peut que réaliser l'amour de Dieu pour le monde. Il a donné son Fils. Il a créé un peuple pour accueillir son Fils pour le salut du monde. Et nous faisons partie de cet arbre. Nous avons cette mission particulière d'annoncer cette bonne nouvelle. Et on ne peut que le faire si on a compris cette adoption. Et donc, dans Romains 8, verset 15, Paul, il nous encourage à faire notre, à comprendre ce qu'est l'esprit d'adoption. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et ça, c'était beau aussi de voir, quand on était à Jérusalem, des petits-enfants qui disaient Abba, Abba. Ils appelaient leur papa comme ça. C'est comme si nous, on disait Papa. Et ça m'a touchée parce que, en fait, voilà, c'est un passage qu'on lit très, très souvent. Et puis quand on l'entend en vrai, ça fait sens. D'un coup, ça devient réel. Et donc, c'est vraiment l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Papa. En fait, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qu'on comprend dans notre esprit, c'est quelque chose que l'on reçoit dans notre esprit. Parfois ça passe pas par ici, ça va directement dans l'esprit parce que justement on a besoin de mûrir et de s'approprier ces choses, mais parce qu'elles sont spirituelles, on les comprend pas forcément tout de suite d'un point de vue humain. Et c'est pour ça qu'on va prier tout à l'heure s'il y a besoin, pour que vous puissiez encore comprendre davantage dans votre esprit ce que c'est que cet esprit d'adoption. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc il me semble que l'esprit nous pousse à nous débarrasser définitivement de l'esprit d'orphelin, parce qu'on ne peut plus, en fait, et on ne pourra pas aller vers le monde et donner tout ce que le Père veut nous donner pour transmettre si on a encore cet esprit d'orphelin qui bloque. On parlait, je crois, il y a quelqu'un qui parlait d'enlever tous les blocages tout à l'heure, et c'est vraiment ça. Parce qu'on ne peut pas s'attendre aux hommes. On est tenté de s'attendre aux hommes, de savoir tout ce qu'ils peuvent faire pour nous. On est tenté de mettre des attentes sur les personnes en autorité, sur notre pasteur, etc., etc. Et en fait, le problème, c'est que ça nous apporte que des déceptions et ça nous fait ralentir. Et d'un point de vue humain, évidemment, comme tout le monde, j'ai mis des attentes trop élevées sur les gens et j'en ai récolté que de la déception. Et même à un moment donné, j'étais dans un tel c'était pas un désespoir, mais presque dire « Oh ben, ça fonctionne pas, donc je lâche, je laisse tomber. » J'étais dans une passivité gentille, mais passive quand même, quoi, hein, dans le sens « J'attends que les choses se passent, on verra bien ce qui se passe. » Et on est tous tentés de faire ça, de rester simplement spectateur. Et je pense que le Seigneur, il veut qu'on reste dans la paix, ça oui, mais la paix, c'est pas la passivité. Et on peut continuer à prier, on peut continuer à proclamer, et on peut rester ferme sur les promesses de Dieu, parce que ce sont ses promesses à lui, on ne les a pas inventées, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé par notre propre entendement. C'est tellement au-delà de nous-mêmes, ça nous dépasse tellement, qu'on est obligé de s'en remettre à lui. Et quand on a reçu la révélation du grand « Je suis », tout de suite beaucoup mieux. C'est Dieu, l'Éternel, celui qui est et qui est tellement puissant, qui est tellement énorme face à nos petits soucis que on le laisse faire. On le laisse faire. Ok. Donc on va prier, on va prendre un temps de prière. Oui, c'est c'est bien, on est dans le timing. Le but, c'est de vraiment racheter nos héritages pour qu'ils soient purifiés dans le sang de Jésus, parce qu'on a de bons héritages, et puis il y a évidemment des choses là-dedans qui ont besoin d'être nettoyées. Et on va prier aussi pour rejeter encore tout ce qui n'est pas de Dieu, renoncer à l'esprit d'orphelin, à l'esprit de rejet, qui sont, oui, des pièges, qui sont des pièges et qui ne produisent que l'amertume. Et déclarer que le timing est dans ses mains et que c'est lui qui nous dirige. Alors Seigneur, je te prie pour ce temps. Je te demande de venir visiter chacun, Saint-Esprit. Que chacun soit ouvert à ta voix. Que chacun puisse entendre aussi ce que tu as besoin de lui dire là maintenant, personnellement, individuellement. Merci pour ta présence depuis le début de ce culte. On sait que tu es là. Que tu œuvres dans cette église, que tu œuvres dans cette communauté, que tu œuvres en nous individuellement. Ça, on le sait, Saint-Esprit, tu es là. Et Seigneur, tu es le Seigneur de nos vies. Nous avons chanté « Enfin, je me rends » et on s'abandonne à toi. On veut s'abandonner dans tes bras, même si on ne comprend pas tout. On veut vraiment débrancher maintenant notre cerveau et recevoir uniquement ce qui vient de toi. Tout ce qui tourne en boucle dans la tête, maintenant ça dégage, ça se tait. Et ce qui vient du Saint-Esprit a une pleine liberté maintenant, une pleine liberté. On te laisse la place. On te laisse la place. Et on renonce à tout ce qui a été difficile dans cette marche. On a l'impression de tourner dans le désert, mais on ne veut pas murmurer. Dans toute cette marche aussi de... Le travail entre les générations, on a l'impression que ça n'avance pas, mais on renonce à ces mensonges parce que ça avance. Tu travailles en nous, Seigneur. Tu travailles au travers de nous, tu travailles entre nous. Tu es présent, tu fais ton œuvre en ton temps et ton timing, c'est le timing parfait. On veut déclarer qu'on ne comprend rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on renonce à nos fausses idées, à nos faux semblants, à tout ce qui pourrait être de la compréhension humaine. Et on s'en remet à simplement ta révélation. Alors je te demande, Seigneur, de venir parler à chacun. Parle à chacun dans la situation dans laquelle il est. S'il y a besoin de renoncer encore à d'autres choses, renonce au rejet, à l'esprit d'orphelin qui nous piège, qui nous amène vers l'amertume et la déception. On renonce à ça maintenant, dans le nom de Jésus. On renonce à tout ce qui nous enferme, à tout ce qui nous fait tourner en rond. On renonce aux œuvres de la chair aussi. En pensant t'aider, on a créé des Ismaël. Heureusement, Seigneur, tu as aussi une bénédiction pour Ismaël, mais on veut rien engendrer qui ne soit pas de toi. On veut rien engendrer qui ne soit pas de toi. On veut être dans la crainte de ce que tu nous dis, dans l'obéissance de ce que tu nous dis, dans la crainte de qui tu es, le respect total de ta sainteté. On renonce à nos œuvres mortes, à tout ce qui n'est pas de toi. Merci pour ton sang, Jésus, qui nous lave. Merci parce qu'en toi, il n'y a aucune condamnation. Alana, tu veux bien venir jouer un peu? Merci. Parle-nous, Saint-Esprit, s'il y a des endroits auxquels on garde encore des choses qui ne sont pas de toi, des endroits qui ont besoin d'être purifiés dans nos vies. comme c'est une œuvre de l'Esprit, Saint-Esprit, je te demande de venir planter en chacun de nos esprits ton esprit d'adoption. Maintenant que la place est nette, maintenant que tu as nettoyé tout ce qui avait besoin d'être nettoyé par ton sang, Saint-Esprit, je te demande de venir révéler à chacun les bras du Père, l'amour du Père, l'amour extraordinaire, au-delà de toute compréhension. Et ça peut que être de l'esprit, ça peut que être un ressenti personnel, quelque chose qui vient au profond, dans les entrailles. Il n'y a que toi qui peux faire ça, Saint-Esprit. Je te demande de venir vers chacun pour qu'il puisse expérimenter cet amour profond du Père. Viens, Saint-Esprit, fais-nous ressentir ta...